Arrête Manuel, comment ça va?
Ça va les gars, salut Manuel.
Il me fait des guillis Manuel.
Bonjour.
Ça va Léo?
Bah ça va.
Ben voilà, bon podcast.
Bon, aujourd'hui c'est un podcast de merde parce que c'est encore Romain qui a trouvé le sujet.
Génial.
Il a décidé de déchirer ses stats.
Mais il est en forme en ce moment. Mais tu sais pourquoi t'es aussi inspiré? C'est parce que tu lis.
Mais oui, je sais. Mais du coup c'est cool.
Ben c'est vrai, c'est là que naît la créativité.
Écoutez, j'ai
la
lu...
La vie prend du sens. Hein.
Exactement.
J'ai lu Les 24 leçons de Warren Buffett. C'est écrit par James Pardo, qui est un avocat et qui est dans le cercle proche de Warren Buffett. Et
okay. Bon, ça, c'est dégueulasse.
D'accord, pas mal. Parmi ces 24 leçons, je me suis dit, bah, en fait, si tu enlèves le côté bourse, argent, finance, bah, toutes ces leçons-là, tu peux les appliquer dans la vie de tous les jours, en fait, en tant qu'entrepreneur ou même dans ta vie perso pour réussir des trucs. Mmh. Voilà. Donc, c'est comment gagner en 14 leçons. Parce que j'en ai enlevé 10 qui étaient un peu trop spécialisés, bourse, finance, etc. Je voulais pas non plus que ça tourne autour que du fric. Voilà.
Mais ça marche partout, je veux dire, c'est illimité.
Ah ouais, honnêtement.
C'est un Warren Buffet à volonté.
Qu'est-ce que t'es con, Léo ?
Tu peux couper ça, Thomas.
Elle était bien, pourtant moi je l'aurais laissé honnêtement.
Écoute, laisse-la, c'est pas grave, j'aurais une réputation de merde.
Elle est parfaite, moi je la laisserai.
Manuel, toi qui aimes bien les définitions, il faut rappeler pourquoi est-ce qu'on aurait envie de gagner tout le temps ou ça va jusque là, on
Mais
comprend.
Mais que veut dire gagner?
Bon, bon, tu nous fais pas chier, si t'as envie d'être un loser, t'as le droit.
Non mais c'est vrai que la question se pose parce que le titre, il est abstrait. Mm. Gagner dans quoi? Parce que si c'est gagner à la fête foraine, ça intéresse moins de gens.
Ah quoique... Tu sais que sur certains stands, il y a des tickets qui peuvent rapporter des grosses peluches.
Ouais, c'est très bien, mais c'est très bien, Romain.
Voilà. Non,
ouais,
c'est.
Tu serais gentil de pas confondre.
Il est. En moi, ce qui est bien, c'est qu'il est. Romain est enfin aligné avec ses ambitions.
Oui.
Bon, premier point, vous allez comprendre. Voilà. Évidemment, comme d'habitude, je commence la lecture, etc. Donc, je suis là pour débattre avec vous, les gars. J'ai des points.
De 6 ans.
Mais non, mais
je commence la lecture. J'en suis au chapitre sur les mots de 3 syllabes.
Je sais écrire mon prénom.
Bon, première leçon, privilégiez la simplicité au détriment de la complexité. Lorsque vous investissez, cherchez la simplicité, faites ce qui est facile et évident. Conseil du coup Warren Buffett, ne cherchez pas à élaborer des réponses compliquées à des questions complexes.
Oui, dans l'investissement j'imagine
non,
que ça
tu
veut
peux
dire
t'arrêter là.
Investir
ça
sur...
Ça fait une réponse simple.
Oui, pardon.
Tout le livre porte sur comment gagner de l'argent en bourse, en gros, oui. Comme Warren Buffett. Donc, il faut s'enlever de ce truc-là et juste envisager toutes ces leçons-là pour qu'elles puissent nous aider au quotidien.
Je crois qu'on a compris.
Voilà.
Oui, t'inquiète pas.
Ça va, ça jusque-là, ça va.
Tu peux nous le redire, mais en espagnol, peut-être. Pour les gens qui ne parleraient pas français et qui nous écoutent. Ça veut dire que, par exemple, tu investis dans Amazon. Non, c'est pas ça que ça veut dire?
Si tu
fais un investissement simple et pas complexe, pour moi, c'est ce que ça veut dire en termes d'investissement.
Pour moi, ce que ça veut dire, c'est n'investis que dans des choses que tu comprends. C'est oui. D'ailleurs une règle que j'applique.
Donc, par exemple, Amazon.
Bah, ça dépend. Il y a sûrement quelqu'un qui ne doit pas comprendre. et visiblement, ils ont été assez nombreux puisqu'au début, ils ne se bousculaient pas pour investir dans Amazon. Mais souvent, on te pitch des projets. Tu trouves le projet intéressant. Tu es peut-être même admiratif de... ce qu'on te dit de la techno, de la vision, de l'équipe, etc. Mmh. Mais t'as pas forcément les compétences pour comprendre. Et si au bout d'un moment, après avoir mis un petit peu d'effort quand même, tu as toujours pas compris, et t'es juste dans la phase d'admiration, mais pas dans la phase de compréhension, moi mon conseil c'est n'investis pas.
Et n'investis pas de ton temps, de ton énergie, ça va pas justement qu'avec ce rapport
oui,
financier.
C'est pas que financier.
Et c'est ce qui est super intéressant.
Mais c'est comme avec les gens, moi quand je les comprends pas, j'investis pas de temps.
Mais tout le livre porte là-dessus, et en fait ce qui à la fois fascine chez Warren Buffett et ce qui énerve, c'est qu'il a investi dans très peu d'actifs en fait dans sa vie. Il s'est intéressé à plein de choses, mais il n'a pas diversifié à 300% et il n'a pas touché à des choses qu'il ne comprenait pas. On va le voir avec d'autres leçons après, mais c'est ce qui est intéressant, c'est de se concentrer sur quelque chose que tu comprends. Et le conseil qu'on est beaucoup à donner et qui paraît toujours débile, mais dans des choses que tu aimes. Mm. Parce que pour comprendre plus vite, il faut un minimum apprécier ce que tu lis et ce que tu étudies.
Moi, c'est un truc que j'applique, que j'ai toujours un peu appliqué dans la vidéo, mais que je fais de plus en plus et j'ai compris... récemment à quel point c'était libérateur, c'est de pas trop complexifier ton travail et ton message. C'est-à-dire que si tu dois parler de l'iPhone 14, bah, peut-être que t'es pas obligé de parler de tout l'iPhone 14 et d'aller sur l'appareil photo, des notions que tu comprends pas, etc. Peut-être que tu peux simplement parler de ce que tu comprends déjà. Et en fait, tu vas te rendre compte que c'est plus passionnant à faire parce que toi, c'est un élément qui te parle beaucoup plus, tu peux te concentrer là-dessus. Et en plus, comme tu te concentres sur un truc, une notion assez simple, eh ben, tu peux aller beaucoup plus profond dans l'apprentissage et même à regarder, c'est beaucoup plus simple.
Il est d'accord, Manuel, sur la profondeur des choses.
Non, on en a parlé à midi d'ailleurs.
Manuel se transforme de plus en plus en acteur porno dans ce podcast.
Arrêtez, mais n'importe quoi. Mais j'étais en train de me dire, mais est-ce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas de l'iPhone 14? Non, il n'y en a pas pour ce qui te concerne. Mais c'est juste que tu fais un choix.
Il y a des choses qui m'intéressent moins.
Voilà.
Et en fait, le fait d'aller vers l'autofocus, etc., la
manière dont
il prend les photos, tout ça, bah, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est compliqué pour moi que de faire ce travail-là.
Et toi, Romain?
Moi, j'ai compris qu'il fallait pas que je le fasse.
Qu'est-ce que le deep fusion?
Toi qui es autofocus.
Ouais, c'est vrai que je suis pas mal. Je suis bien là-dessus. Non, mais c'est vrai, à contrario, j'ai beaucoup étudié l'évolution de l'autofocus, du traitement de l'image chez Apple, l'évolution entre les capteurs de 48 millions de pixels aujourd'hui et de 12 millions de pixels à l'époque. Enfin, c'est un truc qui me plaît. Et c'est vrai ce que dit Léo et moi, c'est en train de devenir libérateur parce que jusqu'à présent, j'avais une chaîne YouTube où je me disais, si je parle de ce produit-là, il faut que je parle de tout sur ce produit. Et aujourd'hui... Putain, on va le refaire, qu'est-ce qu'il y a ?
Est-ce qu'un airbag, c'est un autofocus?
Pas mal.
D'accord, on en est là.
elle est très bien, elle me plaît beaucoup.
Je sais pas si je.
Pas, c'est pas grave. Hein.
Ouais, non, c'est pas grave. Hein.
Non.
Non. De toute façon, là, je me faisais chier, moi, personnellement.
Vous êtes insupportables, les gars.
Deuxième leçon.
Afficher une humeur égale. Laissez à autrui toute réaction excessive face au marché, veillez à garder la tête froide, lorsque les esprits s'échauffent, vous n'en tirerez que plus de profit.
Manuel,
il le fait bien ça.
Ouais, mais d'ailleurs c'est ce qui est parfois insupportable, parce que Manuel peut avoir des réactions très détachées, qui peuvent nous paraître très détachées de la réalité, alors qu'en fait il n'y a pas plus réaliste que le constat de Manuel.
T'as l'impression qu'il
s'en branle. Ouais, et moi il y a plein de fois où j'ai envie de dire Manuel, mais non, t'es pas du tout connecté au truc, c'est parce que toi tu le fais pas, tu sais pas, machin... Et c'est super chiant parce qu'en fait, c'est ce truc excessif qu'il faudrait éviter et il faudrait prendre beaucoup de recul. Et pareil, c'est super facile à dire, mais à faire, je pense que ça met des années, honnêtement, pour avoir la maturité et la sagesse de réussir à le faire.
Mais non, mais moi, je ne peux pas m'auto-commenter.
J'ai
Léo de reprendre.
Ah, moi, j'avais une question pour Manuel, mais vas-y si tu veux.
Bah, Léo reprend et puis tu poses ta question.
Tu veux que je commente ta vie là? Tu veux que je te fasse des compliments, c'est ça?
Non, je veux que. Bah, je ne peux pas prendre la parole derrière ça.
Tu crois que tu claques des doigts, il y a un compliment qui arrive comme ça? Oui, Manuel, effectivement. Il est assez détaché de la situation en général. C'est quelqu'un qui réagit jamais mal. T'es une merde.
8h22 sur RMC. C'est vraiment ça.
Mais moi,
ça.
Je serais à votre place. Bon, c'est ce que vous dites est vrai. Mais ce que vous dites pas, parce que vous ménagez un peu, c'est que je suis toujours c'est pas que je suis toujours je suis toujours d'humeur égale, certes.
Mais t'es toujours de mauvaise humeur.
Mais je suis toujours désagréable.
Ah non, t'es pas d'humeur égale.
Je pense pas que Manuel soit d'humeur égale. Je pense que ils sont d'humeur égale. En fait, Manuel est schizophrène. C'est-à-dire qu'il y a une partie de sa personnalité qui, elle, est constamment joyeuse. Et il y a une autre partie de sa personnalité qui est constamment désagréable. C'est juste que selon la journée et le moment de la journée et l'interlocuteur, il en choisit un.
Par contre, ils s'observent tous chez Manuel. C'est-à-dire que s'il y en a un qui réagit mal à un truc et autre, ça prendra peut-être un peu de temps, mais même 24 heures après, tu peux avoir l'autre partie qui revient et qui dit « Finalement, à ce moment-là, j'étais pas d'humeur égale.
» Ce que vous dites est totalement faux.
Non, c'est vrai. Non, mais en revanche, c'est vrai que Manuel est toujours détaché de la situation.
Ouais.
Et je pense que ça s'applique dans des conseils financiers quand tu veux investir en bourse, etc. Mais effectivement, tout le temps. Parce qu'en fait, tu gagnes rien à t'énerver face à une situation, face à quelqu'un, etc. Donc, il faut te détacher et peut-être ensuite réfléchir.
La seule chose que tu gagnes, c'est démontrer que tu ne gardes pas ton sang-froid. Et donc, en fait, en règle générale, quand tu t'énerves très très fort, tu perds aussi tes nerfs, tu perds ta capacité d'analyse, tu perds la distance par rapport aux choses. Et du coup, tu te dévalues dans la conversation.
Et tu peux le regretter.
Et tu peux évidemment le regretter. Et si c'est le cas, il ne faut pas hésiter à le dire et présenter ses excuses si on doit le faire, etc. Mmh. Mais si on n'aime pas s'excuser, il faut éviter de s'énerver.
Moi, je trouve ça super dur. Parce que parfois, tu as des cas où... Et je sais que c'est un vrai point faible chez moi. J'arrive vraiment pas à m'adapter à mon interlocuteur et c'est ce qui fait que j'arrive pas à être... Enfin, je suis d'humeur égale, mais du coup, pour moi, c'est un point négatif. Parce que du coup, je vais réagir de la même manière avec tout le monde.
Mais ça, c'est pas trop l'humeur. C'est juste que tu t'adaptes pas, mais c'est pas une question d'humeur. Tu passes pas d'agréable ou désagréable, pour moi, c'est pas ça.
Oui, mais par exemple, en face de moi, si la personne est en train de me raconter quelque chose qui marche moins bien ou qui marche mieux, etc., je vais toujours appliquer la même méthode. Donc je trouve que avoir une humeur égale, c'est bien pour ses équipes, mais par rapport à tes interlocuteurs ou à tes clients, c'est pas forcément très bien, parce que t'as l'impression de paraître toujours très neutre, très détaché.
Non, tu peux être enthousiaste, tu peux marquer de l'enthousiasme ou autre, mais c'est aussi une façon de définir des frontières, je pense, que pour tes équipes en interne et pour tes clients, savoir que tu ne franchiras jamais ces lignes-là, c'est aussi une forme de confort relationnel, de te dire « je suis dans une zone de sécurité ». Je sais que le mec va pas péter les plombs, m'arracher la tête, sortir une hache ou je sais pas quoi, tu vois. Mmh. Et je pense que c'est important. Je pense que c'est important de donner des gages de sécurité dans la conversation et de savoir qu'il y a des lignes que tu ne franchiras pas. C'est important.
Et ce qui fonctionne, du coup, c'est que, en tout cas pour toi, Manuel, ton interlocuteur, même s'il n'a pas l'habitude de le faire, va agir de la même manière. C'est-à-dire que quand tu es d'humeur égale avec les gens... Les gens ont moins tendance à partir dans des trucs un peu bizarres, à hausser le ton, etc.
Bah pour s'énerver, il faut être deux. Hein. Mm. C'est rare de s'énerver tout seul, en fait. Ou alors, ça devient un spectacle. Ça peut être rigolo. Mais un mec qui s'énerve tout seul, auquel tu ne réagis absolument pas, va avoir tendance à se calmer.
Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire.
Troisième leçon. Elle est intéressante, celle-ci, surtout dans notre secteur.
C'est vrai que les autres ne l'étaient pas.
Elle est beaucoup moins.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Oubliez le high-tech, achetez du low-tech. Pour Buffett, un investissement réussi est rarement associé à une activité tape à l'œil. Dans son univers, les fusées et les lasers sont bien moins présents que du ciment, de la moquette, de la peinture ou une bonne isolation.
Moi, j'ai une question.
Oui.
Il ne serait pas actionnaire de SpaceX et de Tesla ?
Maintenant, si, bien sûr. Mais Warren Buffett a fait quand même sa plus grosse fortune sur des investissements très long terme.
Non, mais c'est intéressant. Intéressant. Et en gros, il dit que les valeurs de base sont moins volatiles et moins dangereuses. Enfin, volatiles peut-être pas, mais moins dangereuses pour tes investissements. Et c'est globalement, c'est vrai. Quand tu achètes des valeurs liées à la construction, moi, je suis pas spécialiste sur la question, mais effectivement, c'est des valeurs qui sont assez prévisibles, compréhensibles dans un contexte. Si tu achètes de l'énergie en ce moment, bon, ben, a priori, il y a quand même une pénurie d'énergie. Tu risques pas grand-chose sur ces questions-là. Alors, faut faire attention à pas l'acheter à n'importe quel prix, mais bon, a priori, ça va pas redescendre dans les 12-24 mois qui arrivent. Ceci n'est pas un conseil d'investissement. et je comprends ce qu'il veut dire. Après, je trouve que l'application au pied de la lettre est un peu dangereuse. En fait, d'ailleurs, il a été investisseur d'Apple, je sais pas s'il l'est encore. J'ai pas l'impression que Apple fait des briques de Lego.
Non, mais il en avait parlé, enfin, dans le livre, en tout cas, ils en parlent, et il parle surtout de cet univers-là, parce que c'est l'univers dans lequel on a le plus de recul. Et donc, ce que ça veut dire pour nous, là, en leçon, c'est privilégier les investissements où vous pouvez voir longtemps en arrière les résultats qui ont été déjà faits dans ces univers-là, plutôt que d'investir de son temps, de l'énergie dans des trucs tout nouveaux qui brillent partout, mais où t'as pas de recul. Tu sais pas dire, bah, il y a 5 ans, ça s'est comporté comment dans la dernière crise, il y a 10 ans, comment ça s'est comporté.
Oui, mais heureusement qu'il y a des investisseurs qui soutiennent une innovation qui n'a pas de track record, parce que sinon, il y aurait plein de choses qui n'existeraient pas non plus, en fait. Mais à partir du moment où tu es un investisseur occasionnel, choisis plutôt des valeurs qui sont lisibles et qui ont une histoire. Si tu es un investisseur plus professionnel ou plus expert, tu peux te permettre de prendre un niveau de risque plus élevé.
Toi, c'est quoi ta part de... Je sais que tu lis énormément, Manuel, de choses sur monde actuel, les technologies de demain, etc. Tu crois beaucoup plus en ça ou tu lis quand même à côté et tu t'informes beaucoup de...
Moi, je lis pas du tout de trucs là-dessus. Alors, moi, je lis des études comportementales et sociologiques. Je lis de la psychanalyse, parce que l'être humain est la technologie qui m'intéresse le plus, parce que c'est celle que j'utilise le plus au quotidien. Après, je lis des romans. Je lis des philosophes, mais je lis pas des trucs sur les investissements boursiers et tout ça, j'en ai rien à carrer.
Et toi, Léo, sur les sujets, est-ce que t'as l'impression de passer plus de temps, moi je connais déjà la réponse forcément, mais sur des sujets futuristes dans lesquels le monde est beaucoup plus incertain que des sujets arriéré, pour prendre juste des termes un peu péjoratifs, mais pour comprendre.
Je pense qu'il y a un juste milieu quand même. Je lis pas tellement de sujets hyper futuristes. Il y en a assez peu. Je vais me renseigner sur le métaverse, etc. Mais j'essaie de pas trop prendre d'avance. Je me fais mon propre avis sur les choses. Mais moi, surtout, je parle d'actualité d'aujourd'hui et demain. Donc, ce qui se passe après-demain, je m'y intéresse un peu moins.
Cinquième leçon, elle est pour Léo.
Ah, il me fait peur quand il dit ça.
Pratiquer l'inactivité au lieu de l'hyperactivité.
Ah ouais.
Parfois, en matière d'investissement, ne rien faire est un signe de clairvoyance.
Ah ouais, ouais, ouais.
Mais même dans la vie, hein. Pas sur investissement. Ouais.
Je suis tellement clairvoyant.
Ah oui, ça c'est sûr.
Oui, bah ça rejoint ce qu'on a dit dans plusieurs podcasts.
Ouais, d'ailleurs, on a que pas terminé ce podcast. Allez, écoutez les autres. Allez, merci, au revoir.
Je crois pas que l'hyperactivité soit une qualité. En général, j'associe les hyperactifs à des gens qui font beaucoup n'importe quoi et qui au final produisent très très peu de valeur. C'est un très bon ventilateur, ils agitent beaucoup de vent, mais ça produit assez peu de résultats. Donc il ne faut pas non plus être complètement inactif, mais simplement si vous pouvez utiliser 4 heures de votre journée en plein focus sur un truc qui sert vraiment à vos objectifs, faites-le.
Manuel est un expert là-dedans. Si on le connaît peu et qu'on essaie de prendre contact avec Manuel, en général, bon, on n'a pas de meeting tout de suite, sauf si c'est nécessaire, etc., urgence, mais l'agenda de Manuel est toujours très rempli. Et quand tu côtoies Manuel, c'est de la lecture, de la réflexion, un peu de rendez-vous quand même et un peu de choses mécaniques à faire dans la journée, mais surtout du temps pour soi. Mmh. Et c'est un truc que j'arrive toujours pas à appliquer. Manuel, c'est quoi pratiquer l'inactivité ? Parce que les gens vont nous dire oh, « Parfait, moi j'ai regardé Netflix hier après-midi, je suis inactif, hein, je réfléchis. »
Ben, tu réfléchis pas quand tu regardes Netflix, tu te distrais. Il y a plein de gens à qui il faut réapprendre à s'ennuyer.
Ouais, tout le monde.
Parce que c'est dans l'ennui que tu trouves des idées, mais vraiment l'ennui profond. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, le seul truc que tu as à lire, c'est un dictionnaire ou un annuaire. Quoi. Il faut retrouver le temps long et le temps lent, en fait. Et moi, j'essaye de gérer mon temps comme ça. Donc oui, mon agenda, il y a plein de trucs dedans. Il y a plein de plages de mon agenda qui sont en fait réservées à moi-même.
Ça, je sais, mais j'ai jamais réussi à le faire. Ça,
bah, il suffit de le décider, c'est pas très compliqué.
C'est-à-dire que t'es jamais tout seul.
Bah, je suis toujours en train de faire un truc pour ou avec les autres. Mais je suis jamais en train de faire un truc que pour moi.
Horrible. Quel enfer.
Mais par exemple, quand tu lis, t'es tout seul.
Oui.
Ah non, t'as un traducteur.
Non, mais je suis pas en train de... je suis pas... Pour moi, c'est pas un moment de réflexion. C'est différent. D'ailleurs, toi, t'as des moments de lecture. Parfois, Manuel, tu me dis « Ah bah non, ce week-end, je lis. Je veux lire ce bouquin, je l'aurais fini ce week-end. »
Oui, mais il te dit ça à toi, mais il paraît bizarre avec moi, hein, donc...
D'accord.
Mais on lit dans l'avion. oui, bah...
Tu t'enfermes jamais dans une pièce tout seul en te disant « Tiens, là, je vais m'ennuyer. » Tu fais pas ça, tu vois, c'est pas ça. C'est...
Ah bah moi, je m'enferme régulièrement dans une pièce tout seul que j'appelle mon bureau, dans lequel, vous savez, hein, quand tu viens à un moment qui n'est pas approprié, tu dégages, en fait, quoi. Mais ça se trouve, j'étais absolument en train de rien faire.
Mmh. Alors, ce serait trop drôle que tu le dises aux gens. Excuse-moi, je suis en train de rien faire, là.
Mais c'est juste que dans ces moments-là, c'est que je trouve des idées ou... voilà. Mais je veux pas d'agitation.
Mais t'as un support, t'as quelque chose, tu utilises ton ordinateur, tu vas lire des articles, tu fais quoi tu...
Bah, je suis assis, je réfléchis.
Ça c'est terrible, je sais pas le faire ça.
Ah, voilà.
Ah non, moi je sais pas le faire. Moi il faut soit que je lise, en général je lis dans mon bain et tu peux faire que ça. Ça c'est incroyable. Bon après, il faut pas que ça dure 4 heures parce que normalement c'est un peu long. Ça j'aime trop. Mes moments qui ressemblent le plus à ça, c'est quand je me mets devant mon ordi, que j'ouvre une seule app, que je suis en ne pas déranger, que je touche rien d'autre que mon clavier et que j'écris des trucs, que je fais des mind maps, etc.
Oui, mais là, t'as un objectif de sujet. T'es pas juste en train de...
C'est voilà, impossible. C'est déjà sortir dans la rue pour marcher sans objectif, je ne sais pas le faire.
Voilà, mais c'est tout ce que je voulais dire. Ça dans m'insupporte. Le je fais jamais rien tout seul. Enfin, je me dis jamais, tiens, pendant une demi-heure...
Mais c'est très mal dit, alors.
Bon, ben voilà. Mais ça m'arrive jamais de me dire une demi-heure dans la journée, tiens, tu ne vas rien faire. Soit je lis, soit je prends un article, soit je réfléchis à une idée, soit j'ai un concept à réaliser, enfin, quelque chose, quoi.
Mais c'est ce qu'on faisait quand on était petit, et c'est le moment de notre vie où on a été le plus créatif.
C'est vachement bien de ne rien faire, en fait. Et en fait, tu te rendras compte que en essayant de ne rien faire, tu n'y arrives pas.
Ouais, c'est impossible.
Et donc, tu fais quoi ?
Bah, tu processes des trucs.
C'est comme quand tu prends ta douche.
Ouais.
Quand tu prends ta douche, tu penses pas juste à l'eau qui te tombe dessus. C'est là que t'as les meilleures idées, bah c'est pareil.
Alors lui, non.
Ah oui, il prend pas de douche.
Sixième leçon. Ignorer la macro, privilégier la micro. Les grands événements et les grandes tendances extérieures à l'entreprise ne comptent pas. ce sont au contraire les petits événements, ceux qui affectent un secteur d'activité en particulier, qui sont vraiment importants. Moi, je suis un peu contre ce truc-là dans notre industrie, de se dire, bah non, les grands événements de ce monde, etc., nous impactent forcément. On peut pas juste fermer les yeux en se disant, bon, ça se passe dans un autre pays, j'y pense pas. Tu vas forcément te dire, bah je vais parler à telle ou telle personne, il faut quand même que je sache un minimum qui est cette personne-là avant de lui parler pour connaître le contexte.
Mais il dit pas le contraire. Il te dit en gros que ce qui est évident mérite assez peu d'attention parce que tu le comprends assez vite, mais que l'avenir est dans les signaux faibles.
Ok.
Voilà, c'est ça ce qu'il est en train de te dire. Si tu observes bien les signaux faibles, tu vas comprendre des choses qui vont arriver parce que l'accumulation des signaux faibles donne une espèce de tendance. Mmh. Enfin, c'est ce que je comprends. Et je trouve ça intéressant. C'est comme ça que tu détectes des conversations émergentes sur Twitter qui vont devenir des tendances demain. C'est comme ça que tu détectes de la tendance dans la mode, etc. C'est par l'accumulation de petits signaux qui finissent par converger et devenir une tendance à un moment où ça finit par grandir, en fait. Et quand c'est mainstream, ça n'intéresse plus personne et tu t'intéresses au signal d'après. C'est oui. L'histoire de la mode.
Et donc, pour voir ces signaux, il faut du temps, s'ennuyer un minimum pour pouvoir les assembler. Et se dire, ah tiens, j'ai lu.
Bah,
tout
il faut
ça.
Au moins se donner le temps d'observer sans pression et avec un petit peu d'attention et de les détecter.
Faut se cultiver un maximum sur l'histoire de ton domaine déjà. Si tu connais pas le passé de ta catégorie, de ton domaine, tu pourras jamais prédire le futur.
Et ben, c'est la septième leçon qui peut vous aider à ça. Restez dans votre cercle de compétences. Développez votre champ d'expertise et agissez à l'intérieur de ce champ. Ne vous inquiétez pas des opportunités que vous pourriez rater à l'extérieur de ce champ.
Ouais.
Et bah, c'est bon, vachement
on en parle souvent, c'est la renonciation. Mm. Je crois qu'on en a parlé dans un autre podcast, je ne me souviens plus, mais le fait d'accepter qu'il y a des bons coups que tu vas rater parce que tu as choisi de ne pas adresser cette partie-là, bah, ça fait partie du job, en fait.
Et c'est surtout que la contrainte est un tremplin pour la créativité. Quand tu te donnes des contraintes, tu vas réfléchir différemment et tu vas te dire, ok, je me suis refusé à cette idée, je me suis mis une limite, je peux pas aller vers là. Et bah, tu vas voir que du coup, tu vas avoir un cercle beaucoup plus réduit de possibilités, mais tu vas beaucoup plus réfléchir à ces possibilités-là et ça va vraiment évoluer et c'est là que tu vas développer ta créativité. Si tu te donnes aucune contrainte, le champ des possibles, il est trop grand, tu peux jamais rien créer.
J'arrive pas à le faire, les gars.
Mais ça, on a vu. Hein.
Faire ça.
Bah, tu le fais déjà avec ton vocabulaire. J'étais obligé.
Le problème quand tu veux courir toutes les opportunités, c'est que tu vas finir par être nul en tout, quoi.
Ouais.
Mais aujourd'hui, ne serait-ce que la façon de consommer l'actualité et toutes les informations fait qu'on passe d'un sujet à un autre juste en swipant sur TikTok, en regardant des vidéos à droite à gauche. Donc ouais, j'ai l'impression mais ça va devenir de plus en plus dur de développer une seule et même compétence parce que les gens sont poussés à vouloir tout suivre en même temps.
Et c'est pas parce que tu consommes que tu dois produire comme ça.
Et puis tu peux être curieux, tu peux t'intéresser à plein de choses sans avoir la volonté d'en faire ton expertise ou ton domaine de prédilection. Donc tu peux avoir de la curiosité, mais de là à te dire je vais changer 5 fois de métier dans ma vie et je veux des trucs qui sont complètement antagonistes, qui font appel à des compétences qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, etc., c'est moyen.
Puis tu ouvres pas une pizzeria à chaque fois que tu manges une Domino's, en fait. Donc tu peux très bien éloigner ta consommation de ta production. Il y a plein de trucs qui vont te faire kiffer dans la vie, mais toi, crée-toi une expertise.
Et c'est un conseil fort, mais que je trouve difficile à appliquer, parce que quand tu ouvres TikTok aujourd'hui, tu trouves une personne dont l'expertise, c'est la crypto, et qui va t'expliquer en 30 secondes comment devenir riche en crypto, donc tu vas vouloir faire de la crypto. Tu swipes, t'as une personne qui te dit « Ah ben moi, je fais du dropshipping, regarde comment ça marche, ah ben je veux faire du dropshipping. » T'as l'autre qui va te dire « Moi, je fais du marketing d'influence. » Tu vois ce que je veux dire? C'est juste par là qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, je trouve ça de plus en plus difficile de se dire « Oh, attends, il y a plein de trucs qui m'excitent, mais sur quoi je me concentre ?»
Il y a un dénominateur entre tes 3 exemples, c'est l'argent. C'est juste à citer 3 trucs qui font de l'argent, donc c'est ça ton thème.
Ok.
Je vous donne une citation, vous savez que j'aime bien les citations. C'est Aragon qui disait « Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. » Voilà, je trouve ça assez représentatif.
Donc autant ne pas te rajouter des barrières en essayant de devenir un expert sur 10 000 sujets différents. T'as déjà trop peu de temps, utilise-le bien.
Et dès que tu commences à apprendre un tout petit peu quelque chose sur n'importe lequel des domaines, tu vas vite comprendre que ta vie ne suffira pas à investir la quantité de connaissances disponibles sur le monde. Donc autant faire des choix pour espérer être un petit peu moins con. De là à être un grand expert, on n'y est pas. Quelques-uns y arrivent, mais c'est pas la grande majorité.
Et souvent, c'est ceux qui continuent de poser le plus de questions.
Ah ben, ça demande beaucoup, beaucoup d'intelligence de savoir qu'on ne sait pas. A contrario, ça demande énormément de bêtises que d'avoir beaucoup de certitudes.
Ça, je sais pas.
Ah si.
Quel con. 8e leçon.
Belle preuve par l'exemple.
Là, Manuel, j'ai envie que tu nous sortes plein d'autres exemples pour la comprendre, cette leçon-là.
Oh, putain, parce que... il donne du taf. T'es payé pour faire ça, Manuel ? Moi, je suis pas payé non plus. Hein.
À la bourse, le roi est nu. Wall Street est le seul endroit au monde où des personnes se rendent en Rolls-Royce afin d'écouter les conseils d'autres personnes qui prennent le métro. Je la trouve exceptionnelle parce qu'elle veut dire plein de choses et tu peux l'adapter à plein de trucs.
Tu dis ça parce que chez Influx aussi, le roi est nu.
Bah, souvent.
Je sais pas ce qu'on va avoir à dire là-dessus.
Il n'y a rien à dire, en fait.
Pour moi, c'est très finance, ça.
Non, au contraire. Ça veut dire que tu peux apprendre de tout le monde, que ceux qui démontrent le moins sont en général ceux qui savent le plus. Enfin, ça veut dire plein de trucs. Ça veut dire que pour gagner, pour des leçons pour gagner, il ne faut pas t'intéresser uniquement à ceux qui affichent des choses.
Ça veut dire que le marché met tout le monde d'accord, peu importe qui tu es, quel est ton statut social et quels sont les biens qui t'appartiennent. C'est ça ce qu'il dit. Tu peux venir en Rolls-Royce et te planter et le marché va te donner une fessée alors qu'il va récompenser... un gamin de 20 ans qui vient en métro, qui a pris énormément de risques, mais qui s'est bien instruit et qui a choisi ses bons investissements. Et moi, je trouve ça bien, en fait. C'est une espèce de pied d'égalité.
C'est le karma. Toi, tu crois beaucoup au karma ?
Je crois au karma, mais ça n'a pas de rapport avec le karma.
Ah bon ?
Non.
Ok. Bon, bah, 9e leçon, alors. Utilisez toute la puissance de votre moteur. Quelle est la puissance de votre moteur et avec quelle efficacité le faites-vous tourner ? Vroom vroom. Beaucoup de gens ont des moteurs de 400 chevaux, mais tournent à 100 chevaux maximum. Ne vous laissez pas distraire par les tâches en cours et n'agissez pas de façon irrationnelle. Celui qui fait tourner à plein régime son moteur de 200 chevaux est bien mieux parti.
Le lièvre et la tortue.
Mmh. La quantité de gens qui achètent des tonnes de logiciels pour faire des tonnes de trucs et qui se retrouvent avec 3-4 logiciels différents, etc., qui... en fait, ont juste dans leur UX, t'ont valorisé une fonctionnalité. Mais en fait, si t'avais creusé un peu, toutes ces fonctionnalités existent dans un logiciel que tu as déjà certainement, mais que tu connais assez mal. On a tous une méconnaissance des produits qu'on a entre les mains. Et la première méconnaissance qu'on a, c'est nous-mêmes. On utilise tous globalement assez mal notre cerveau. Enfin, sauf certains qui sont au maximum de leur capacité. Et c'est...
moi, je suis au max.
Voilà. Bon, après, il faut accepter ses limites.
Bah, ça revient avec le fait de ne pas s'éparpiller, de se concentrer sur un seul point et d'essayer de le faire bien plutôt que d'en courir 10 et de les faire mal.
Alors... voilà. C'est juste du focus, en fait. Si tu apprends comment fonctionne ton cerveau et que tu as réussi à définir ce qui te plaît et quels sont tes objectifs, tu peux t'approcher des 100%. Tu n'y seras jamais, mais tu peux t'en approcher.
Prenons l'exemple de Mel Robbins, que j'aime beaucoup, la 5-second rule. Quand déjà tu comprends que tu vas apprendre en faisant et pas juste en lisant ou en accumulant de la connaissance, et qu'à un moment, si tu réfléchis plus de 5 secondes à quelque chose, il y a de fortes chances que tu ne le fasses pas, déjà tu vas révolutionner ta vie. Il faut juste le faire.
Apprendre avec des pincettes quand même. Hein.
Pourquoi ?
Parce que ça peut faire prendre un paquet de décisions de merde.
Mais et alors ? La vie va te répondre. Tu vas prendre une décision de merde, t'auras un résultat de merde, et puis tu vas passer à autre chose. Mais moi, je suis fasciné par la quantité de gens qui restent bloqués dans la théorie. Mmh. Donc, ils réfléchissent pendant des lustres à des tonnes de choses. Puis ils se disent, ah ouais, ouais bon, attends, je sais pas, j'aimerais bien. Et puis en fait, non, j'aimerais plus. Et puis en fait, là, j'ai peur.
Souvent,
et puis,
ils te trouvent des excuses. Ces voilà.
Et ça, c'est à un moment, tu as envie de dire, mais vas-y, fais, vérifie que ce à quoi tu pensais et ce que tu as appris en le faisant t'étonne ou te correspond ou je sais pas quoi,
ouais.
Et puis avance de là.
Ne serait-ce que dans nos auditeurs, je pense qu'il y a un paquet de gens qui ont un master en écoute de take-out, mais ça s'arrête là. Hein. À mon avis, il y a plein de gens qui écoutent toutes les semaines en se disant « Ok, ça c'est bon, j'ai compris, etc. » qui prennent pas de notes, qui n'ont jamais rien lancé, qui n'en seront peut-être jamais rien, ou qui se rendront compte que finalement l'entrepreneuriat c'est pas pour eux, c'est sûr et certain qu'ils sont pleins.
Ben voilà, ben Léo vous aime pas, moi je pense qu'il n'y a personne de cette nature qui nous écoute, je pense qu'ils sont tous totalement surdoués.
Ben alors là, dans ce cas-là, il faut qu'on arrête les podcasts hein, parce qu'on sert à rien.
J'adorais la citation de Orelsan qui dit « Change un truc dans leur logiciel, ils se mettent tous au chômage technique. » C'est assez vrai. Et juste pour raconter l'anecdote, et ça... quoi ? Pourquoi
on
tu rigoles ?
On est passé de Aragon à Orelsan quand même.
Bah, c'est pas bien, c'est vrai. Bah, au moins, ça parle à tout le monde.
Oui, bah, c'est sûr.
Elle est vraie, celle-là.
Mmh. Moi, pardon, je te laisserai après continuer. J'adore Jules qui dit Chiquita. Chiquita, Chiquita.
On n'est pas au même niveau quand même. Non, mais parce qu'on est beaucoup à la chanter et quand ça t'arrive, t'es peu à l'appliquer. Mais non, mais quoi ? C'est vrai.
J'ai pas compris le rapport.
C'est super Romain. Est-ce qu'on a une autre leçon ?
D'accord, bah on coupe alors. Allez vous
faire
foutre.
Bah non,
surtout pas.
Ah bah non,
si on coupe,
on va regarder.
Non.
C'est formidable, c'est un grand moment de solitude.
Tu laisses s'il te plaît Thomas.
Non.
Si.
Non, Thomas, tu coupes. 10e leçon, Évitez les erreurs coûteuses des autres. Appuyez-vous sur l'examen des erreurs de manière à pouvoir les éviter à l'avenir. Ça paraît tout con comme leçon, mais quand on teste des trucs, on regarde jamais si ça a été fait, est-ce qu'on s'est déjà planté, est-ce que d'autres personnes se sont plantées avant, comment est-ce qu'elles s'y sont prises, etc. Enfin, beaucoup agissent sans avoir cette réflexion-là de se dire « Attends, moi je vais faire comme ça, comment est-ce que ça a déjà été fait ? Est-ce que ça a déjà fonctionné ou pas ? Comment est-ce que ça peut être mieux fait ?»
Ça, c'est évident, non ?
Ouais, mais je trouve qu'on le fait pas assez. Enfin, moi, je parle juste pour moi, là. Mais parfois, il y a des choses que j'ai envie de proposer avec certains clients, etc. Et je me demande pas une seule seconde, est-ce que ça a déjà été fait ? Est-ce que ça a été mal fait ? Qu'est-ce qu'ils ont déjà testé ? Etc, etc.
Ça, c'est dommage. Mais y a quand même beaucoup de gens qui n'apprennent pas de leurs erreurs.
Oui.
Moi, j'apprends énormément des erreurs que font les autres en écoutant mes conseils.
C'est une super strat.
T'es taré, mec.
N'hésitez pas à nous envoyer des mails, d'ailleurs, si vous avez des expériences sur vos
conseils
qu'on a donné.
J'aime beaucoup cette phrase.
En général, c'est une IA qui crée nos conseils. Nous, on les dit et on attend vos retours.
Non, mais c'est presque pas de second degré, ce que je dis. D'abord, je pense qu'il faut apprendre de ses propres erreurs, mais je pense qu'il faut... tu franchis un pas supplémentaire quand tu arrives à avoir l'écoute active des autres et à apprendre toi-même de leurs erreurs à eux. Ça demande beaucoup d'empathie, de se dire « Ok, t'es en train de me raconter que t'en étais là, que tu te disais ça, que t'étais convaincu que ça, j'aurais fait le même choix que toi, etc. Et t'es en train de me raconter que c'était une erreur, je vais prendre cette info, et la prochaine fois que je croise ce cas, ton expérience va me profiter. »
Ça demande une écoute active exceptionnelle, parce que ça, je...
Mais ça, c'est vachement important. Parce que si tu n'apprends que de ce que tu fais toi, t'apprends, mais t'apprends pas à la bonne vitesse dans un monde qui va très vite.
Tu regardes, toi, beaucoup, Léo, certains... concept YouTube ou façon de faire en production vidéo, etc., où tu te dis putain, ça marche pas, pourtant je l'aurais bien essayé avant même de faire.
Ouais, mais je me dis pas ça marche pas, j'aurais bien essayé. Je me dis tiens, lui il l'a mal fait. C'est vrai, c'est-à-dire je regarde comment il l'a fait et ça me permet d'avoir un feedback automatique qui me dit ah ok, ça a pas marché parce qu'il a dû tester comme ça, moi je vais essayer de faire comme ça, mais je regarde quand même ce qui a déjà été tenté et je suis très content qu'il l'ait fait avant moi.
Mais c'est le propre de la jeunesse de penser que les erreurs des autres ne vont pas te concerner.
Non, c'est pas ça, c'est pas ce que
c'est parce que je dis pas que c'est ce que tu dis. J'ajoute qu'on constate souvent chez les jeunes qu'ils se disent qu'ils seront ils sont plus forts que les histoires que tu leur racontes et que de toute façon, cette erreur, elle ne s'applique pas à eux.
Mais ça, c'est une ambition intéressante si tu la transformes en réussite.
Oui, mais dans la majorité des cas, c'est
pas le cas.
C'est pas le cas.
Mais ce que je voulais dire, c'est que simplement, quand tu as quelqu'un qui l'a déjà tenté, de constater l'échec, ça peut te permettre de comprendre pourquoi c'est un échec et de contourner ce truc-là. C'est pour ça que je dis que je suis très content que des gens aient tenté des choses avant moi.
Le plus dur à transmettre, c'est pas la connaissance, c'est l'expérience. Transmettre de la connaissance, c'est facile. La connaissance, ça s'organise, ça se documente. Ça s'écrit, ça se rend même ludique, ça s'enseigne. Tout ça, c'est facile. L'expérience, c'est plus compliqué. Parce que l'expérience, d'abord, il faut avoir envie de la raconter. Ça demande d'enlever un peu de pudeur parce qu'il faut aussi raconter tes échecs, etc. Donc, du côté de celui qui la raconte et du côté de celui qui l'écoute, ça demande de prendre pour argent comptant des choses que tu n'as pas vécues et de considérer qu'elles vont s'appliquer à toi.
Ouais.
Compliqué.
11e leçon, lisez encore. Puis réfléchissez. À quoi Warren Buffett passe-t-il son temps ? Selon les estimations de ses proches, il passe 6 heures par jour à lire et 1 ou 2 heures au téléphone. Le reste du temps, il réfléchit.
Enfin, il est vieux, il dort.
Oui. Peut-être aussi des petites siestes. Oh, il a mérité quand même.
Non, mais ça, on l'a dit 1000 fois, en fait.
Ouais, mais moi, je sais toujours pas le faire. On a beau le dire...
Non, mais t'es pas obligé de lire 6 heures dans la journée. Mais la connaissance, elle est quelque part. Maintenant, faut aller la chercher.
Il y a quelques jours, à Manuel, j'ai dit... Attends, ça y est, j'ai réussi à lire déjà 1 heure par jour ce week-end. Il me dit, une heure, tu sais, je pourrais lire 14 heures dans un week-end. Genre, il m'a démoralisé complètement.
C'est bien, mais c'est énorme déjà.
Ouais, j'étais content.
En fait, en faisant ça, tu peux devenir supérieur à la majorité des gens.
Alors, je cherche même pas déjà juste à être supérieur à ce que j'étais la veille moi-même. Déjà, c'est bien.
Bonne réponse.
Oui, ça, c'est pas compliqué.
Ah bah oui, mais non, mais ça demande déjà de faire mieux que la veille à chaque semaine. Oui. Mais ça concerne déjà peu de gens.
Il y a un truc que les gens n'entendent pas, c'est que plus la connaissance qu'on te donne se fait sous une forme ludique, pratique, résumée, autrement dit, aussi sur des plateformes où quelqu'un va l'avoir déjà digéré pour toi, etc. Donc on me dit souvent, moi je lis pas, mais je regarde un résumé sur YouTube. Mais c'est pas pareil.
Ah ouais, ça c'est...
C'est pas pareil.
C'est comme un jus d'orange. Si tu le presses toi-même, t'as beaucoup plus de bonnes protéines et de bienfaits de l'orange que si tu l'achètes en supermarché, déjà complètement transformé.
C'est vrai. Il faut accepter que la connaissance la plus importante est par définition dans des supports plus difficiles d'accès.
Puis, au bout d'un moment, merde, les mecs se font chier à écrire 600 pages. C'est pas du vide, hein. C'est que tu peux pas le résumer en 10 lignes.
Récemment, j'ai lu une synthèse d'un livre que j'avais déjà lu entièrement. Et je me suis dit, oh, putain, mais tout ce que j'aurais loupé si j'avais lu que la synthèse faisait une demi-heure de lecture. Et ça s'arrache, hein, sur Internet. Tu vois les campagnes de trucs de synthèse, des mecs qui écrivent des synthèses de livres et tout. T'as des gens, ils se disent, oh putain, oh, je l'ai lu ce livre. Puis ils ont lu une synthèse. Mais le nombre d'infos que tu perds, c'est exactement comme la première fois que j'ai lu juste un livre en entier et que j'avais lu, bah, c'était la biographie notamment d'Elon Musk et que j'avais regardé tous les reportages.
Ça faisait longtemps.
Tous les reportages, je les avais vus. Je me suis dit, bon, je le connais par cœur, j'adore ce mec et tout. Et putain, quand tu lis, tu t'aperçois de tellement de trucs en profondeur que tu n'aurais jamais sous-estimé, quoi. Enfin, que tu n'aurais jamais...
Et surtout, il faut déculpabiliser.
Imaginez.
Il faut déculpabiliser le fait de sauter des pages, des chapitres, ou même d'arrêter un livre.
Tu l'as dit récemment.
Si ça te plaît pas, j'en parlais sur Twitter. Moi, ça a changé la manière dont je lis. Parce qu'avant, je me disais, ah ben non, j'ai acheté un livre et tout quand même. Oh, je vais le lire jusqu'au bout, même si le truc est complètement inintéressant.
Si tu pouvais aller plus loin que la couverture, par contre.
Non, ah, il y a des trucs après ?
Bah.
C'est merde. Pas que derrière, tu sais, il n'y a pas que le derrière.
Ah putain, mais c'est pour ça, je me disais en ce moment, je lis vachement.
Non, mais. Et vite en plus.
Déculpabiliser le fait d'arrêter de lire un livre parce qu'il ne vous intéresse pas ou de sauter des chapitres parce que vous avez déjà lu ces informations ailleurs ou alors tout simplement parce que ça ne s'applique pas à votre cas, c'est fou, tu lis beaucoup plus et c'est moins une souffrance.
J'ai commencé à le faire sur le livre que j'ai en ce moment qui est Marketing Stratégie, qui est assez complexe à lire, surtout en anglais, etc. pour moi. Et au début, ben, tu vois, il démarre avec le truc, etc. Je me suis dit, bon, ça, ok, j'ai compris, ça, ce mec, ça me dit rien du tout, machin, c'est un philosophe de je ne sais quoi. Et ça te permet aussi d'avoir plus de temps de concentration alloué aux choses intéressantes. Bah, si tu commences à prendre tout ce temps-là pour tout ce que l'auteur raconte, ça commence à devenir long.
À la fin de l'année, t'as lu beaucoup plus de livres.
Ouais.
Ça apprend à être patient, ça apprend aussi à s'ennuyer. Les passages que t'aimes pas. Alors, t'es pas obligé non plus de te fouetter, tu peux sauter des passages, mais ça, c'est très lié, je suis désolé, je vais pas me faire que des copains, mais c'est très lié à l'éducation nationale. C'est-à-dire que le premier rapport qu'on a à la lecture, souvent, après avoir appris à lire en primaire, etc., etc., c'est souvent des obligations.
Ouais.
C'est-à-dire que ton prof te dit, ah, bah, il faut lire ce livre, il faut que vous ayez fini dans un mois, ou dans trois semaines, ou je sais pas quoi. Et en fait, le fait de démarrer son rapport à la lecture par des obligations, c'est quand même pas l'installation d'une relation extraordinaire.
Bah, c'est un devoir plus un plaisir, quoi.
Voilà. Et souvent, c'est un vrai problème. Alors, il y a tout un travail à faire ensuite pour trouver des thématiques sur lesquelles on sont intéressés, trouver le bon livre, etc. Moi, il se trouve que j'ai essayé de redonner le goût à la lecture à des gens qui ne lisaient pas, très souvent autour de moi.
Ton ami Gilbert Montagné, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Il y embraille. En fait, tu te rends compte que pour arriver à provoquer ce déclic, la sélection est un sujet très important.
Ouais.
Bien choisir le livre, trouver le bon livre, celui qui va faire dire à quelqu'un qui ne lit pas, je n'arrive pas à m'arrêter, ce truc est extraordinaire. Et ça, c'est d'une satisfaction vraiment ultime que d'offrir le bon livre à la bonne personne au bon moment.
J'adore faire ça.
Ça dépend aussi de la psychologie de la personne, en fait. Et de sa psychologie à ce moment-là de vie. Et moi, je communique beaucoup comme ça.
J'allais dire, c'est le meilleur moyen d'envoyer des messages.
J'offre des livres, c'est ma façon à moi de communiquer, et je peux te dire que je ne te dis pas la même chose en fonction du livre que je t'offre.
Mais j'ai pas compris pourquoi tu m'avais laissé 50 nuances degrés sur mon bureau.
12e leçon. Alors, celle-ci, elle m'a aussi vachement intéressé parce que c'est tout le travail que Manuel a fait avec moi. Allez, je fais sur le bingo.
Contre, on veut peut-être pas tout.
Depuis qu'on s'est rencontrés.
Prenez
vos propres décisions d'investissement. N'écoutez ni courtier, ni analyste, ni expert. Trouvez par vous-même. Alors, si on ramène ça juste dans notre métier, il y a un truc que j'ai toujours adoré en travaillant avec Manuel, c'est que il m'indiquait où pouvait se trouver la solution et à certains trucs pour que je me pose des questions, mais à la fin de la fin...
Il te la donnait pas en bouche.
Voilà, c'est toi qui l'as trouvé. Exactement, je la trouvais toujours. Vous en faites quoi de cette leçon ? Écoutez personne, trouvez par vous-même. Je trouve parfois c'est un peu trop facile de dire ça, parce que c'est quand même bien d'aller chercher l'info chez des experts, à un moment.
C'est comme toutes les phrases toutes faites, il faut quand même la prendre avec des pincettes, mais ça veut dire quelque chose.
Ça veut dire quoi pour toi ? Parce que toi, tu trouves tout par... Enfin, j'ai l'impression que tu trouves beaucoup de choses par toi-même, Léo. Tu passes énormément de temps à chercher, tu passes énormément de temps à lire, t'appelles jamais, enfin je t'ai jamais vu appeler quelqu'un en disant tiens, je voulais faire ça, comment on fait ?
M'a appelé pour cuire des pâtes.
Oui, voilà, j'allais dire, c'est pas vrai, hein, mais évidemment.
Si, c'est vrai.
Dans ma créativité, non, c'est vrai que je suis très solitaire. Je déteste travailler avec des gens, ça m'intéresse pas. En revanche, je vais beaucoup chercher ce que les autres ont fait, ce que les autres ont écrit, dit, etc. Mais oui, non, je fais appel... Enfin, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a plein de moments où j'ai des discussions avec des potes, avec Manuel, notamment, avec un pote également avec qui j'ai eu beaucoup de discussions, et en général, ça oriente un peu ta créativité. Mon père aussi souffre énormément, je l'avais pas encore cité dans ce podcast, comme je suis payé pour le faire.
C'est le bingo aussi.
Je le fais maintenant. Mon père, j'ai des discussions un peu en monologue. C'est-à-dire que lui, il répond des trucs assez génériques. J'ai capté que maintenant, il a des phrases toutes faites pour. Il sait que ça m'oriente. Il comprend pas toujours le sujet en
mais
profondeur.
Souvent, il fait autre chose. Hein.
Mais moi, oui, je pense qu'il fait autre chose. Mais moi, le fait de discuter, ça ouvre ma créativité, ça ouvre des idées.
Tu peux appeler des associations aussi.
Oui.
Tu peux laisser ton père tranquille au bout d'un moment. Bah, il y a des numéros verts.
Je me suis inscrit aux Alcooliques Anonymes.
Toi, Manuel, je sais que tu parles beaucoup à ton réseau. T'as quand même un réseau important aujourd'hui avec plein de gens, dans plein de métiers différents. Et je sais qu'à certains moments de l'année, quand tu te poses des questions sur des sujets précis, etc., t'aimes bien appeler certaines personnes de ton réseau pour leur dire « Je bosse là-dessus en ce moment, t'as entendu des choses, qu'est-ce qui se dégage, c'est quoi tes... » Je trouvais ça super intéressant.
Moi, je me sers beaucoup de mon réseau comme une boussole, en fait. Alors, je considère que tout ça est une espèce de chasse au trésor, et j'appelle des gens que j'estime et dont je reconnais l'expertise et l'autorité sur certains secteurs, et à qui je demande de me déniaiser. Pas de m'indiquer le chemin, mais de me dire « Bon, si j'étais toi, j'irais un peu par là, parce qu'il y a sûrement des trucs intéressants, etc. » Et puis, du coup, j'appelle 3, 4, 5, 6 personnes, et au final, tu te rends compte que bah, y a une tangente qui se dégage, et c'est sûrement intéressant de creuser par là. Je n'aime pas qu'on me dise « c'est ça les coordonnées GPS, va ici ». Bon, en général, s'il y a des gens qui affirment ça, je ne les appelle pas plus d'une fois.
Et tu le fais aussi dans Paris, par exemple. Quand tu veux te rendre quelque part, tu ne regardes jamais sur Google Maps, tu l'appelles sur réseau.
En vous écoutant, ce que je me disais aussi, c'est un conseil qu'on peut donner aux gens, c'est s'il y a des auteurs que vous lisez et que vous aimez bien, souvent il est assez facile de regarder deux choses. La première, c'est qui les a inspirés. Ça, souvent, avec quelques interviews, tu trouves assez facilement. Voilà, enfin, Google est ton ami. Et la deuxième, c'est l'époque. C'est-à-dire que l'époque à laquelle ça a été écrit, essaye de regarder qui existait à cette époque dans ces thématiques-là. Et essaye de lire ce qui s'est écrit un peu avant, un peu après, ou au même moment, etc. Et ça te fait découvrir plein d'autres auteurs. Et souvent, c'est des belles découvertes.
Putain, je vais prendre ce conseil, parce que c'était vraiment... Enfin, de temps en temps, je cherche des livres, et je peine beaucoup à trouver des trucs qui me plaisent. Donc j'achète plein de trucs, et il y en a beaucoup que je lis pas, du coup. Parce que je commence et je me dis, oh là là, ça, soit je le sais déjà, j'ai l'impression qu'il va raconter des banalités, soit, oh là là, c'est trop technique, et je vais me faire chier, quoi. 13e leçon, étudier de près la direction des entreprises. C'est tout con, mais l'analyse peut débuter et parfois cesse avec la réponse à une question fondamentale, qui dirige l'entreprise ? Parfois, enfin, moi je suis le premier à idolâtrer des marques, etc. Et puis en fait, je ne m'intéresse pas aux fondamentaux, à qui a créé l'entreprise, pour quelle raison, dans quel but et tout ça. Et parfois, quand tu commences à chercher, soit tu te dis, oh là là, ça pue la marque de merde, parce que le mec, il a fait 10 milliards de trucs avant, et à part le fric, il n'y a pas grand-chose qui l'anime. Soit, à l'inverse, tu te dis, mais c'est incroyable, enfin, c'est un parcours de génération en génération.
On va répondre tout de suite à la question que les gens vont se poser. Donc, c'est moi qui dirige Influx actuellement. N'hésitez pas à me contacter.
Pour Manuel, pour toi, ça veut dire énormément de choses. Manuel, tu m'épates à chaque fois que je cite le nom d'une marque. Manuel, c'est le premier à dire « Ah oui, ça a été fondé par dans telle année, c'était incroyable parce qu'il avait collaboré avec tel truc et c'est pour ça qu'il a lancé ça et en fait, il est parti de cette problématique. » Et tu sais directement qu'avec les étoiles que Manuel a dans les yeux, tu fais « Ah ok, c'est intéressant. » Et à l'inverse, parfois, il va te dire « Oh, ça c'est né d'une campagne, d'un truc à la con, ils ont voulu faire une sous-marque, machin, atteindre ce marché-là, ils ont répondu, machin. »
Oui, c'est vrai.
C'est ouf.
Bah, parce que j'ai aidé des marques pendant 25 ans dans leur communication et dans leur stratégie marketing. Donc, tu t'intéresses à elles et tu t'intéresses surtout aux humains qui l'ont fondée et à ce qu'ils poursuivaient comme projet. Et je trouve que c'est particulièrement intéressant dans la mode. Mmh. Les maisons de mode, elles sont dirigées par des directeurs artistiques. On ne parle pas du CEO ou du directeur financier ou du mec qui gère la logistique, les opérations ou la production. On parle du directeur artistique d'une maison. Et une maison peut être hyper hype à un moment parce qu'elle a le bon DA qui lit l'époque et qui sait absolument, de mon point de vue, capter le truc du moment et hyper une maison. Exemple, Balenciaga en ce moment, ou Valentino par exemple, et tu as des maisons qui ont du mal à, se réinventer, des vieilles maisons qui elles ont perdu leur DA, qu'en essayent d'autres, et qui ont vachement de mal, et qui font tourner les DA, etc. Et donc, du coup, tu fais la différence entre la valeur de la marque et la valeur de la personne qui dessine pour cette marque. Et tu peux avoir des pièces d'une maison qui étaient parfaitement à la mode à cette époque-là, mais si tu suis que la marque, ben, ça devient un peu boring parce que ça correspond plus à l'époque. Mmh. Et c'est la différence entre les acheteurs de logos et les connaisseurs de mode.
De toute façon, les plus grandes boîtes sont en général associées avec, avec leurs créateurs. Hein. Steve Jobs avec Apple, tu vas aller chercher Bill Gates, Elon Musk, etc. C'est de plus en plus personnifié.
C'est très américain. Si tu vas directement sur d'autres marques comme Samsung, Xiaomi ou machin, tu sais même pas à quoi ressemble.
Oui, mais c'est des grandes boîtes.
Ouais, mais c'est quand même. Tu peux pas dire que Samsung, par exemple, est pas une grande boîte, mais pour autant, je serais incapable de reconnaître alors que je suis dans ce.
C'est parce que c'est le marché asiatique.
Oui,
c'est,
mais voilà.
C'est beaucoup plus loin de nous que le marché américain. Mais Xavier Niel, par exemple, tu le connais.
Oui.
Peut-être qu'en Asie, ils le connaissent pas.
14e leçon, c'est la dernière, les gars. Mais c'est la plus importante. Et c'est celle que je maîtrise pas du tout. Soyez patient. Pensez en termes de dizaines d'années et non de dizaines de minutes. Si vous n'êtes pas prêt à conserver certains titres, pour reparler de la bourse, pendant 10 ans, alors évitez de les acquérir. C'est pareil quand tu veux te mettre dans un projet, dans une boîte qui fonctionne, etc. Manuel répète un truc depuis qu'on s'est rencontrés, c'est tape sur le même clou, ça aura plus de résultats que d'en avoir 10 alignés, de taper un petit peu chaque jour sur chacun. Je n'arrive toujours pas à le faire, c'est impossible.
Si tu tapes 10 ans sur le même clou, t'as un problème de marteau. Hein.
Ah bah ça dépend, tu peux avoir des très très longs clous. Tu vois. Par exemple, Apple ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si les mecs s'étaient concentrés sur 10 milliards de sujets en même temps et avaient vendu.
Globalement, ouais. Globalement, la persévérance paye plus que la dispersion.
Ouais.
Et comme tu ne connais pas la durée de ta vie, eh bien, c'est plus intéressant d'être dans la persévérance que dans la dispersion. Globalement, on peut dire ça. Hein. Et c'était quoi exactement la façon dont il dit le conseil ? Répète, Romain, s'il te plaît.
Penser en termes de dizaines d'années et non de dizaines de minutes.
Malheureusement, on voit des gens qui veulent une quantité d'efforts limitée et des résultats très rapides.
C'est de pire en pire, je pense.
Et ça a tendance à ne pas s'améliorer, effectivement.
Moi, je trouve ça insupportable d'attendre 10 secondes qu'une vidéo charge, par exemple.
Je vous conseille de regarder un film, enfin un documentaire, sur un chef japonais. Mm. Qui s'appelle Jiro, qui est un chef sushi.
Je connais.
Il y a
Olivier Jiro.
Qui a le 3 étoiles Michelin. On va pas relever cette vanne.
C'est exceptionnel.
C'est moyenne. Et en fait, il emploie deux de ses fils. Et il y en a un qui, avant d'avoir le droit de toucher un couteau ou un morceau de poisson, il va apprendre à cuire le riz pendant 3 ans.
C'est le management chez McDo.
Et tant qu'il ne sait pas cuire le riz parfaitement, il ne fera rien d'autre. Parce qu'il n'a aucune raison d'accéder à autre chose. Et que c'est la base. Quand tu es formé comme ça, je peux te dire qu'au bout d'un moment, les sushis que tu sortiras à la fin, non seulement le riz sera impeccable, mais tout ce qui va autour aussi. Ça t'apprend la patience, la persévérance, l'humilité. Voilà. Et je pense qu'on enseigne plus ça.
Si, si, toi oui.
Je lisais une étude il n'y a pas longtemps qui disait grosso modo que le niveau scolaire aujourd'hui est équivalent à celui qu'on avait il y a 15 ans.
Ah oui ?
Oui, c'est catastrophique.
Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je pensais que ça avait baissé de fou.
On se contente d'à peu près, en fait.
Moi, je crois que je suis très patient.
Mais parce que toi, j'ai l'impression que tu ne te soucies pas de l'avenir.
Non, je m'en fous.
Moi, je me dis à chaque fois, mais attends, si dans 5 ans, je suis estropié, que je ne peux plus venir au bureau, machin et tout, putain, j'ai envie de faire des trucs qui font directement le maximum de bruit tout de suite, plutôt que d'attendre 10 ans, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Tu vois, genre, c'est vraiment ce truc-là.
Non, moi, je ne suis pas perturbé par l'avenir. Je suis beaucoup, beaucoup dans l'instant présent. Et je mets absolument toute ma concentration sur ce que je suis en train de faire et à la limite sur l'étape d'après, mais vraiment j'ai pas une vision long terme, juste par contre je veux toujours m'améliorer et je veux que la prochaine fois que je fais un truc ce soit encore mieux que le dernier truc que j'ai fait, mais du coup non, je suis pas stressé par l'avenir,
parce que t'es pas un stratège, t'es un itératif.
Ouais.
Tu prends chaque étape comme un défi, il faut que chaque étape soit le maximum de ce que tu pouvais donner, et il faut que celle d'après soit meilleure que la précédente.
Ouais.
Alors c'est quand même une stratégie de l'excellence, ça demande beaucoup d'autodiscipline, ça demande de se martyriser quand même beaucoup.
Ah oui.
Mais c'est vrai que tu n'as pas tendance à angoisser pour la suite, en fait.
Non, c'est pour ça que je dis, je pense que, en tout cas, sur...
Tu fais un bon myop.
En tout cas, dans mon travail, je suis très patient. Et ça ne me dérange pas de passer 2 mois à travailler sur un truc. Alors, je ne peux plus le faire parce qu'on me force à sortir des trucs régulièrement. Ça m'énerve, on me force à gagner ma vie et à être productif.
Pour le plus grand plaisir des gens qui te regardent.
En plus, ça fait plaisir aux gens, ça m'emmerde. Mm-hmm. Mais non, je suis assez patient, je pense. Plus que Romain.
Ça, c'est sûr. Bon, ben voilà. Je ne sais pas ce que vous allez faire de ces 14 leçons.
Bah rien, rien, puisque comme j'ai dit, ils s'en branlent. Ils sont là, oh bah tiens, j'ai écouté tes cartes, ça veut dire que je suis un entrepreneur. Non, tu peux être une merde et écouter tes cartes.
Vous avez le droit d'insulter Léo sur Twitter.
Avec grand plaisir, parce que je suis une merde également.
Merci les gars.
La bise.
Salut.
Salut.